RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver comme chaque jour, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. Deux piétonnes sont entre la vie et la mort après avoir été renversées à Paris par un vélo et par une trottinette. Leur a-t-on donné tous les droits à ces vélos et ces trottinettes? C'est notre question jusqu'à 13h.
Et puis on va revenir à 13h sur ce geste qui fait tant parler sur les réseaux sociaux. Ronaldo, vous connaissez Ronaldo, qui prend une bouteille de soda, une bouteille de bière, qui les déplace parce que ça le gêne devant lui. Il envoie un geste, un signe évidemment. Et puis Pogba qui s'en mêle et d'autres qui critiquent ou qui font le contraire. Est-ce que les joueurs de foot ont raison de faire cela contre leurs sponsors ou contre les sponsors en général? Ça fait débat et on vous attend au 32-16 pour avoir votre avis, évidemment.
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. Aujourd'hui, vous gagnez un séjour de 2 jours et 2 nuits sur les hauteurs d'Antibes à l'hôtel Baie des Anges, Thalassur. 4 étoiles avec institut de thalassothérapie. Pour gagner votre séjour et jouer avec nous, vous envoyez JEU par SMS au 732-16. Les trottinettes et les vélos en ville se développent et les accidents avec eux. 2 accidents graves ont eu lieu à Paris cette semaine. Mercredi, une quinquagénaire a été renversée par un cycliste dans le 13e arrondissement. Le vélo aurait dépassé un bus, pas vu la piétonne et l'aurait percuté. Lundi, c'est un autre accident qui s'est déroulé dans le 1er arrondissement en pleine nuit. La victime, une jeune femme de 31 ans, est toujours dans le coma avec pronostic vital engagé. Elle a été renversée par une trottinette. Les deux conductrices ont pris la fuite. Le partage de la route, c'est un sujet explosif. En pleine campagne des régionales, Marie Toubiana, conseillère de Paris LR du 19e arrondissement, a expliqué sur Twitter « Les piétons ne sont plus en sécurité à Paris. L'élu pense qu'il va falloir se poser des questions. Les gens vont trop vite, brident parfois leurs trottinettes, ne portent pas de casque, roulent sur les trottoirs. D'ailleurs, à New York, elles sont interdites. » Alors, a-t-on donné tous les droits aux conducteurs de vélos et de trottinettes en ville? C'est notre question jusqu'à 13h. Emmanuel, toi, tu dis oui.
Ah mais la ville, c'est devenu la jungle. C'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y avait encore que les voitures, les bus et tout le monde qui roulait à peu près sur les mêmes voies, ça paraissait compliqué, mais au moins, c'était clair. Il y avait une place pour les piétons, une place pour les véhicules. Là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les conducteurs de trottinettes, les conducteurs de vélos, ils utilisent tout alternativement, c'est-à-dire qu'ils prennent les trottoirs, ils prennent les pistes cyclables, ils prennent la route, les passages piétons, c'est n'importe quoi. Le piéton, aujourd'hui, est en danger à Paris à cause de ça. Et je finis par penser que la multiplication des voies dédiées est un enfer supplémentaire, parce que sur chaque voie dédiée, tout le monde pense qu'il a tous les droits et qu'il est dans son bon droit et qu'il fait n'importe quoi. Et quand vous êtes piéton, qu'il faut plus seulement traverser une rue, mais traverser une piste cyclable, une voie de bus, etc., ça devient l'enfer. Et la réalité, c'est que l'accidentologie, elle reflète ça. Si vous prenez le nombre d'accidents globalement, tous usagers confondus, il baisse. En 2020, il a baissé de 16%. Si vous prenez en revanche les accidents liés au vélo, plus 30%, aux trottinettes, on en est à plus 15, plus 20%. La tendance, elle est quand même incroyable. Alors, il y a peut-être moins de morts, mais le nombre de blessés au total et l'insécurité, même pour les enfants. Un enfant a un passage piéton, il y a une voiture, il n'y a pas de voiture, il regarde, c'est gros, ça fait... Les vélos, ils surgissent de n'importe où.
Ils s'arrêtent pas au feu rouge.
Et ils s'arrêtent pas au feu rouge. Le nombre de vélos que vous voyez le matin avec des parents qui emmènent leurs enfants à l'école avec le petit derrière qui grille les feux, etc. Mais c'est juste scandaleux. Il faudrait les permis pour tout ça. Voilà. Que chacun sache ce qu'il doit faire. Parce que maintenant, il y a tellement de règles que plus personne ne sait ce qu'il doit
faire. Bon, Laurent défend les vélos et les trottinettes.
D'abord, on peut dire que cette anarchie en ville n'a pas encore été réglée par les pouvoirs publics. Et là, je suis obligé de te rejoindre. C'est vrai que les règles sont pas claires. Mais par contre, admet un truc tout bête qui relève du bon sens, admet qu'il y a autant d'irresponsables parmi les automobilistes, les cyclistes ou les conducteurs de trottinettes.
Non, c'est pas vrai. Simplement parce que le conducteur de voiture, il a un permis. Il a appris le code de la route. Il connaît les règles. Après qu'il y a... mais les autres, même
allez,
pas.
Allez, laisse Laurent parler.
D'accord. Et tu crois que c'est parce que t'as un permis, tout à coup, tu deviens responsable? D'abord, il y a 700 000 automobilistes qui n'ont pas de permis, je te signale. Donc, ce que tu dis est faux. La vérité, c'est une question de comportement personnel. Et je te le dis, il y a autant d'irresponsables au volant d'une voiture qu'au guidon d'un scooter ou d'un vélo ou sur une trottinette. C'est comme ça. Et je vais même aller plus loin. Il y a même des piétons qui sont totalement irresponsables, qui traversent au vert avec le téléphone portable dans la main. Donc, c'est une question de comportement individuel. Deuxièmement, je suis allé regarder les statistiques. C'est vrai que les accidents à vélo augmentent. Mais pardon, les propriétaires de vélos, les cyclistes, sont bien plus souvent victimes d'accidents que auteurs d'accidents. C'est même dans une proportion totalement inversée. Il y a eu 184 cyclistes qui ont été tués en 2019. 184. Il y a combien d'accidents mortels causés par des cyclistes ? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc ce débat-là, il est mauvais. Le vrai débat, tu l'as posé dans tout ce que tu as dit, c'est que les pouvoirs publics n'ont toujours pas compris le partage de la route en ville et ailleurs. D'ailleurs, j'ajoute que le plus grand nombre de morts à vélo, il n'est pas en ville. Il est en campagne, en l'occurrence. Et il est causé par qui ? Par les voitures ou les motos. Et en ville, c'est pareil. J'ai regardé à Paris, puisque c'est à Paris que se sont déroulés les deux accidents dont tu parlais, Laure. Il y a eu 4 morts depuis le début de l'année. 2 causés par des poids lourds, 1 par une voiture, l'autre par un deux roues motorisé. Pas par des vélos. Voilà. Donc, dire que l'insécurité routière en ville, c'est la faute des vélos, c'est faux. Ah, les vélos, ils participent parce qu'il y a des cyclistes irresponsables, mais dire c'est la jungle et c'est la faute des vélos, c'est juste un mensonge.
Allez, on va aller au 32-16 dans un instant, mais avant, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, bonjour Laure, bonjour à tous. A-t-on donné tous les droits aux vélos et aux trottinettes électriques ? C'est notre question. Pour voter, pour nous répondre, pour réagir, direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Vincent qui nous appelle de Pithiers, qui travaille dans une étude notariale. Bonjour Vincent, toi tu roules en trottinette électrique. Est-ce que tu fais attention aux piétons ?
Oui, bonjour. Bonjour Laure, Emmanuel et Laurent.
Salut Vincent.
Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir rappelé. J'avais déjà contacté RMC pour le même sujet il y a quelques temps et Thomas m'a gentiment rappelé aujourd'hui. Donc, je suis très content d'intervenir.
Et bien, bienvenue à toi.
Je vais faire bref. Donc, Laure, désolé déjà que tu n'aimes pas trop les trottinettes.
C'est vrai.
Mais je suis totalement d'accord avec Laurent. C'est totalement rare. D'ailleurs, je tiens à le signaler. Je suis plus d'accord avec Emmanuel généralement. Mais bon, bref. Le danger sur la route, il vient de où ? Il vient de partout. Il ne vient pas que des trottinettes, il ne vient pas que des vélos. Le piéton qui traverse, comme a dit Laurent, c'est une catastrophe. Il ne regarde ni à gauche, ni à droite. Il a son téléphone portable dans les mains. Il traverse quand c'est vert. Il traverse en dehors des passages piétons. Il faut savoir que, étant donc titulaire d'une trottinette électrique, la distance de freinage est beaucoup moins efficace qu'une voiture ou que même un vélo. Donc, si le piéton il traverse devant vous, vous avez beau freiner, vous allez vous le taper. Voilà.
Oui, mais tu vois, sur le passage piéton, là où normalement tu es censé être protégé, tu ne l'es plus aujourd'hui dans les villes.
Alors, tu ne l'es plus parce qu'il y a ce que j'appelle, le forçage du passage piéton. C'est-à-dire que j'arrive sur le passage piéton, j'ai priorité, donc quoi qu'il arrive, je m'engage. J'ai un petit exemple tout bête.
Et qui a priorité ? C'est quand même le piéton.
On est d'accord, mais après... Dans
au feu rouge, hein, je te parle même, je te parle même pas...
Ah, mais au feu rouge, il faut pas griller le feu rouge. C'est comme une voiture, tu dois pas griller le feu rouge.
T'as déjà vu une trottinette s'arrêter à un feu rouge ?
Oui, là...
Alors là, préviens-moi, que Vincent, je vienne et que Vincent, je vois ça.
Vincent.
J'ai trouvé quand même des plus mauvaises fois que moi.
Ah non, mais là, Vincent, arrête. T'as déjà vu une trottinette qui s'arrête au feu rouge ?
Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu un accident de trottinette. Et c'était pas de mon fait, c'est la route qui était en très mauvais état et elle s'est cassée devant moi. J'ai eu des jours d'arrêt de travail, c'était très compliqué. J'ai eu l'épaule pratiquement démise, bon bref. Donc je sais.
Donc maintenant tu t'arrêtes.
Quel est le danger en trottinette ?
Mais Vincent, j'ai une question quand même. Vincent, j'ai une question. Est-ce que objectivement sur ta trottinette, tu sais en permanence sur quelle voie tu dois circuler ? C'est-à-dire qu'entre la rue, la piste cyclable, les trucs délirants qu'on a inventés. Alors c'est à mon avis ça, c'était pour c'est le gars qui a inventé la circulation à contresens pour les vélos. Certainement qu'il détestait sa belle-mère qui roule à vélo. C'est pas possible autrement. Enfin, c'est-à-dire c'est quand même incroyablement dangereux. Est-ce que toi t'arrives à savoir en permanence entre je sais pas moi où je roule
sur les trottoirs.
Je le sais pourquoi, parce que je prends la route tous les jours. En fait, c'est le temps de s'y faire. C'est vrai qu'au début, la première fois, on prend la route, on sait pas trop. Il y a une piste cyclable, ça s'arrête. On arrive, il y a les divers passages piétons, il y a la voie de bus. Est-ce que je dois la prendre ou pas ? D'ailleurs, la législation n'est pas très claire. En écoutant les notre émission la dernière fois, j'ai appris que j'avais pas le droit de griller le feu rouge.
Voilà.
Avec le petit signe du vélo qui dit tourner à droite, ben moi je le faisais en fait.
Voilà. Et en fait, voilà. Un permis.
Alors Vincent, reste avec nous. Vincent, on est avec Maître Gilles Fourisco. Bonjour, vous êtes avocat spécialisé dans la défense des victimes de trottinettes. Et alors je vous pose la question directement, est-ce que vous avez de plus en plus de clients?
Bonjour Laure, Emmanuel et Laurent.
Bonjour Maître.
Malheureusement, on a un constat, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus de victimes piétons percutées par des trottinettes et de cyclistes aussi percutés, non pas par des trottinettes, mais par des voitures. L'agglomération est globalement une jungle. C'est chacun pour soi. Il y a deux notions à avoir, c'est le comportement de l'usager. Et la deuxième notion, c'est la question du cadre légal. Et concernant l'utilisation des trottinettes, eh bien on a le comportement de l'utilisateur et qui peut prêter à confusion, puisqu'on a des études, notamment AXA Prévention, qui rappellent que beaucoup de conducteurs de trottinettes roulent sous stup, roulent sous alcool. Ça, c'est des problèmes de comportement, font fi des règles du code de la route. Et puis surtout, il y a la problématique qui est réglementaire. C'est-à-dire que nous avons, semble-t-il, un encadrement avec une loi en 2019, avec un code de la route. Mais par contre, nous avons des aberrations en la matière, puisqu'on va dire que le port du casque n'est pas obligatoire en agglomération, sachant que ces engins vont à 25 km/h.
Ouais.
Et par contre, hors agglomération, bah, il faut mettre un casque, il faut mettre un gilet. Objectivement, un choc, qu'il ait lieu en agglomération ou hors agglomération à 25 km/h, les conséquences sur l'encéphale, ça peut être des conséquences létales. Ça peut être de gros
préjudices derrière. Ce qui me frappe, Maître, j'ai regardé ce matin, parce que je me suis posé plein de questions sur qu'est-ce que les trottinettes ont le droit de faire ou pas. Et par exemple, je me suis demandé, est-ce que lorsqu'il y a une piste cyclable, est-ce que le vélo ou la trottinette sont obligés de prendre cette piste cyclable? A priori, la réponse devrait être simple. C'est oui ou non. Eh ben, figurez-vous les amis, j'ai la réponse sous les yeux. Si devant la piste cyclable, écoutez bien, il y a un panneau qui est rond et bleu, la piste cyclable est obligatoire. Si le panneau est bleu mais carré, la piste n'est pas obligatoire. Je vous jure que c'est vrai.
Gilles Fourisco, est-ce que c'est exact?
Je vous jure que c'est vrai.
Effectivement, c'est le code de la route.
Voilà.
Ouais. Donc là, il faudrait mieux un permis quand même pour comprendre ça.
Un permis, puis il faut être bac plus 8 du point de vue juridique. Parce qu'objectivement, là, et le gros problème, c'est que le législateur ne communique pas, et quand il fait quelque chose, il fait des erreurs. Le français lambda, il croit que c'est réglementé. En réalité, c'est l'anarchie. On oublie de préciser que les trottinettes qui sont mises en circulation à l'heure actuelle sont des dangers publics. C'est carrément des cercueils roulants. Il faut être objectif. Il y a eu une étude qui a été faite par AutoPlus qui a calculé les distances de freinage entre une voiture normale à 25 km/h, une voiture qui
freine. C'est ce que nous disait Vincent.
Exactement. Une trottinette, la meilleure des trottinettes, fait en distance de freinage minimum 8 mètres. Les trottinettes de free-floating, on est sur une longueur qui est comprise entre 15 et 18 mètres.
Mais vous vous dites quoi alors? C'est trop dangereux. Il faut arrêter comme à New York, on interdit les trottinettes dans les centres-villes?
Tout à fait. Il faut interdire les trottinettes en centre-ville pour la bonne et simple raison, c'est que ce sont des dangers par construction. Pas seulement par les utilisateurs, mais de construction, ce sont des engins qui ne sont pas fiables, qui n'assurent pas la sécurité des propres usagers, mais aussi et surtout des piétons.
Vincent, qui est avec nous, quand tu entends Gilles Fourisco dire il faut interdire la trottinette, qu'est-ce que tu réponds?
Bah, je suis totalement d'accord. Je suis totalement pas d'accord.
Je me suis dit, comment l'avocat, il a retourné notre Vincent?
Vas-y.
Non, au contraire, enfin, je suis en train de me dire, dans ces cas-là, elle servira à quoi si c'est pas pour servir en centre-ville? Si je peux me permettre, en fait, le gros danger, c'est l'inattention des gens. Le téléphone portable, à cause de nombreux décès, de nombreux accidents. Je vois des gens qui courent avec leur téléphone portable, ils regardent des vidéos en courant. Mais je suis devant toi. Forcément, tu ne me vois pas arriver.
Enfin, Vincent, les gens qui utilisent leur téléphone à trottinette ou à vélo, on en voit plein aussi.
On en voit plein aussi, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est inadmissible. Mais c'est comme en voiture. Après, à votre avis, c'est quoi le plus dangereux? C'est le mec qui est en voiture avec son téléphone ou c'est le...
Vincent, il y a trois sujets. D'abord, moi qui ai 20 ans de plus que toi, je peux te dire que quand j'ai commencé à conduire, il y avait des policiers sur la route. Il y avait des policiers sur la route. Oui. Là, tous ces comportements totalement subversifs ne sont absolument pas contrôlés. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'une trottinette qui est prise sur un trottoir, en train de rouler sur un trottoir, c'est 135 €? 135 euros. Vous avez déjà vu une trottinette vous faire verbaliser? Jamais, ça n'arrive jamais. Je pourrais prendre plein d'exemples. Deuxièmement, le comportement individuel, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Emmanuel, c'est qu'il est aussi déviant pour un automobiliste, un cycliste, parfois pour des piétons. C'est une question de responsabilité individuelle. Exactement. Mais le troisième point qui est le plus important de tout, c'est que les règles ne sont pas claires. C'est que les pouvoirs publics, l'État et les pouvoirs publics municipaux, n'organise pas ce que tu appelles, toi, la jungle, l'espace public. Rien n'est organisé. C'est pas vrai. Je regarde à Paris, je suis allé à Lyon, les pistes cyclables, mais c'est n'importe quoi. Le partage de la route, c'est n'importe quoi. Et je suis allé voir un chiffre ce matin, je suis tombé des nues. Les pays où il y a le moins d'accidents de vélo, c'est les pays où il y a le plus de vélos. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Et pourquoi? Bah parce que dans ces pays où il y a beaucoup de vélos, on a organisé.
Ah,
dans
ce pays, c'est pas organisé. Ah, écoute, pour une fois que tu attaques l'État et que tu ne mets pas en cause le comportement individuel, c'est impressionnant. Allez, on va continuer à discuter des vélos et des trottinettes. Un grand merci à Vincent qui est venu débattre avec nous et à Gilles Fourisco, avocat spécialisé dans la défense des victimes de trottinettes. Dans un instant, on sera avec un porte-parole de l'association 60 millions de piétons. Et vous, est-ce que vous avez l'impression qu'on a donné tous les droits aux vélos et aux trottinettes? On vous attend au 32-16. À tout de suite. Sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Deux piétonnes sont entre la vie et la mort à Paris. L'une a été renversée par un vélo, l'autre par une trottinette électrique. Alors, est-ce qu'on a tout laissé faire aux vélos et aux trottinettes? Pour Neumann Le Chiffre, oui. C'est scandaleux. Ils rendent la ville invivable pour Laurent Neumann. Non, les vélos et les trottinettes sont moins dangereux que les voitures et les motos. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes pour le moment 75% à répondre comme Emmanuel Le Chiffre.
Ah.
Oui, on a donné aux vélos et aux trottinettes électriques trop de droits.
Bon,
tous les droits.
C'est la preuve que nous ne sommes écoutés que par des automobilistes. Voilà.
Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chiffre.
32-16.
Dans un instant, on sera avec Jean-Paul Le Chevalier, porte-parole de l'association 60 millions de piétons. Mais avant, on est avec Anthony qui nous attend à Franconville. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour.
Toi, tu as vraiment l'impression qu'on a laissé trop de liberté aux deux roues?
Ah non, c'est pas qu'une impression, c'est un vrai constat, puisque moi, malheureusement, j'ai déménagé sur Paris il y a 5 ans, et je dois conduire exclusivement dans Paris pour mes clients, etc. Je suis obligé de prendre la voiture. Donc je fais à peu près 15 000 km, voire 20 000 par an, mais dans l'hypercentre parisien, donc Trocadéro, 16e, tout ça. Donc, et j'ai vu la situation se détériorer avec l'arrivée des... disons que je pense que la mairie, dans son combat pour enlever les voitures du centre de Paris, de la totalité de Paris, s'est un peu trompée. Et donc, a laissé faire n'importe quoi aux conducteurs de deux roues, aux conducteurs de trottinettes, aux conducteurs de vélo. Oubliez qu'il y a beaucoup de conducteurs de trottinettes qui sont des anciens conducteurs de voitures qui ont perdu leur permis quand même. Donc, s'ils ont perdu leur permis, c'est qu'il y a
c'est pas faux, ça.
La route.
Oui, t'as raison.
Une trottinette dans laquelle ils ont...
Ah, pas que, il y en a peut-être une partie. Ah,
j'en connais énormément. Déjà, vous ne verrez jamais une trottinette s'arrêter à un passage piéton pour laisser traverser un piéton.
C'est ce que je disais.
Un vélo non plus. Ça, c'est un truc hallucinant. Une voiture, un scooter, elle fait ça. Il se fait insulter, taper sur la voiture ou sur le scooter. Par contre, les vélos, ils traversent au milieu des piétons, normal.
Alors justement, on est avec Jean-Paul Le Chevalier, porte-parole de l'association 60 millions de piétons. Bonjour Jean-Paul Le Chevalier.
Bonjour.
Est-ce qu'il fait pas très bon d'être un piéton dans les grandes villes aujourd'hui?
Eh bien non, malheureusement c'est un peu difficile. Alors moi ce que je veux pointer c'est l'utilisation tout à fait interdite et abusive, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, du trottoir par les vélos. Et par les trottinettes à moteur. Ces deux types d'engins sont totalement interdits sur les trottoirs, et pourtant on en voit beaucoup. Dans notre association, c'est un de nos combats, c'est de faire respecter les trottoirs. Vous savez combien il y a de trottoirs à Paris? 3000 kilomètres. Alors je parle de Paris là, mais 3000 kilomètres, eh bien c'est 3000 kilomètres de trottoirs. Moi je voudrais qu'ils soient respectés et qu'on fasse en sorte que ni les vélos ni les trottinettes électriques. Je ne parle pas des trottinettes sans moteur, parce que
c'est les enfants
sont considérés comme un jeu d'enfant. Bon, enfin, alors il y a un flou juridique là-dessus, mais trottinettes électriques et vélos sont totalement interdits par le code de la route sur les trottoirs.
Alors ça, c'est le trottoir, mais il y a le passage piéton aussi, hein.
Alors, bien sûr, ça vient d'être dit. Je suis tout à fait d'accord, mais moi, je veux pointer le scandale des vélos et des trottinettes à moteur sur les trottoirs. Et pour ça, il faut que la ville de Paris trouve quelque chose pour verbaliser.
Mais elle a déjà mis une règle, puisque c'est interdit d'être en trottinette.
Je vous confirme, normalement, c'est 135 euros.
C'est le code de la route qui interdit ça. C'est pas la mairie, voyons. Le code de la route interdit les vélos sur les trottoirs, point final.
Non, mais les trottinettes,
et les engins à moteur, quels qu'ils soient, alors les motos et les trottinettes électriques sont aussi interdits sur le trottoir. Ça, c'est le code de la route, et il faut que soit la police municipale, soit la police nationale, soit vigilante et mette un terme à cela, car ça aussi, c'est évidemment un risque pour les piétons, un risque élevé, et souvent une gêne. Les personnes âgées qui voient débouler des gens comme ça sur les trottoirs, alors qu'ils sont interdits, eh bien, les personnes âgées, les personnes fragiles se disent qu'est-ce que je vais faire? J'essaye de ne pas sortir parce que si je sors à pied, je vais me faire percuter.
Voilà. Mais c'est quand même ça qui est quand même fort de café. C'est-à-dire qu'au départ, on a voulu restreindre la circulation des automobiles, etc. Et que tout ça n'a abouti qu'à faire de la ville un enfer.
On a rendu la ville plus difficile.
Mais oui, tout ça aurait dû rendre la ville plus agréable, plus facile à vivre pour les piétons.
Oui,
le marché, c'est quand même le mode de déplacement qui devrait le plus être favorisé. Cette espèce d'idéologisation du vélo. Ah, il faudrait tout faire à vélo aujourd'hui. Il faudrait aller bosser à vélo, faudrait aller de banlieue à banlieue à vélo, etc. Mais c'est débile de tout faire reposer sur le vélo. À Paris, c'est l'idéologie du tout pour le vélo.
Non, mais
et le résultat, c'est que la ville est devenue une jungle pour les piétons, ce qui est quand même hallucinant.
Je te réponds juste sur deux points, Emmanuel. Ça relève quand même beaucoup du comportement individuel. Il y a des règles, beaucoup de gens ne les respectent pas.
Mais les connaissent pas et on ne les oblige pas à les connaître.
Qu'ils soient cyclistes, automobilistes ou propriétaires de deux roues, il y a autant d'irresponsables. Mais surtout, on n'a pas fixé les règles. Je te rappelle, dans les pays où il y a le plus de cyclistes, c'est là où il y a le moins d'accidents. Parce qu'on a pensé la ville. On a pensé la ville pour les voitures, pour les vélos, pour les piétons. Pardon, à Paris et dans la plupart des métropoles en France, on n'a pas pensé la ville. Les règles ne sont pas pensées.
Si, mais le problème, c'est qu'on n'a pas conçu, on n'a pas fait.
Quand tu vois les coronapistes, etc., on n'a pas fait un plan urbain.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, on a rogné à chaque fois sur la route pour aménager des trucs, tant bien que mal, mais on n'a pas vraiment aménagé les espaces pour, comme tu vois dans des villes dans les Pays-Bas. Attends, aux Pays-Bas, t'as des ponts spécifiques qu'ils ont créés pour les vélos.
La ville a été conçue pour.
Voilà.
Mais est-ce que tu sais, par exemple, ça a dû t'arriver 10 fois au volant de ta voiture de suivre un vélo qui roule au milieu de la route?
Ouais.
D'accord? Et je suis sûr qu'il t'est peut-être même arrivé, énervé, de mettre un petit coup de klaxon. D'accord?
Dire un coup de portière.
Non, disant pourquoi il ne roule pas à droite. Mais est-ce que tu sais, toi, automobiliste, que le cycliste en ville a le droit de rouler au milieu pour échapper à la portière de la voiture qui est garée?
Ouais.
Voilà. Bah non, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Et donc, ça rend les gens fous. Ça rend tout le monde fou. Voilà. Et donc, il y a une question de comportement individuel, mais il y a une question de règles et il y a une question d'aménagement de l'espace urbain. Et en fait, sur les trois points, en France, pas seulement à Paris, en France, dans les métropoles, on est nul. Et c'est vrai de l'État et c'est vrai des communes.
Merci beaucoup Jean-Paul Le Chevalier d'avoir été avec nous, porte-parole de l'association 60 millions de piétons. Merci à Anthony qui était avec nous au 32-16. On est avec Karim qui est artisan taxi à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est dans le Rhône. Bonjour Karim.
Bonjour Laure, bonjour Emmanuel et bonjour...
Salut Karim.
Toi, t'as du mal à cohabiter avec les trottinettes.
Alors Laurent, d'abord, je voudrais te poser une question. Déjà. Ah. Est-ce que tu as des œillères comme les chevaux de course? Simplement une question.
Pourquoi?
C'est pas péjoratif. J'ai l'impression que tu regardes face à toi sans regarder sur les côtés. La réalité, elle est tout à fait différente. Moi, je suis 12 à 13 heures par jour sur la route. Et c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot. Alors je suis souvent d'accord avec toi sur d'autres sujets, mais là je suis à 100% d'accord avec Emmanuel. C'est horrible. Il n'y a pas de civisme chez eux. Ils font comme ils veulent, ils ne respectent rien. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de sens, il n'y a rien du tout. Moi je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a ça 2 ans. Je roule tranquillement, j'allais pas très vite, j'étais avec des clients. et c'est à un grand carrefour, au centre de Lyon. Et là, tu as un cycliste qui vient, qui débarque de
Je ne sais où.
Pardon, voilà, merci.
Je t'en prie.
Parce qu'il grille le feu rouge, je le percute, il finit sur mon capot. Et c'était à moi de ramener la preuve comme quoi c'est lui qui a grillé le feu rouge.
Alors, ah oui.
À ce moment-là, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait des témoins, il y avait des clients, je suis taxi, il y avait des clients avec moi, mais autour, il y avait des gens qui étaient témoins de la scène. Mais en plus, c'est à moi de rapporter la preuve comme quoi le type a grillé le feu rouge. C'est invivable.
Mais Karim, que tu as commencé en disant que j'avais des œillères et que je ne regardais pas la réalité.
Ouais.
Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi que le comportement de ce cycliste est irresponsable, mais que tu dois croiser au volant de ton taxi des comportements irresponsables de la part de scooters, de motos, d'autres automobilistes, et même, pardon Karim, de certains piétons. Dis la vérité.
Vas-y Karim.
Défonce-le, vas-y.
Et où le gouvernement, il a juste raison, ils ont su éduquer les automobilistes et les motards. Parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Les motards, c'est des gens qui sont conscients, qui sont responsables, il n'y a pas de souci. Ils ont su les éduquer. Et ils ont su les éduquer pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis des amendes et ils nous ont fait respecter les règles. Et à juste raison, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles pour ces gens-là. Ils font comme ils veulent. Voilà.
Ouais, mais il y a un truc quand même que Laurent en tout cas oublie, c'est que Laurent, t'as l'air de considérer que de toute façon, les gens qui font des infractions, qui respectent pas les règles, quelles que soient les règles, c'est leur caractère, c'est leur nature, c'est leur tempérament, ils ne veulent pas respecter les règles. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qu'ils ne maîtrisent absolument pas parce qu'ils sont dépassés par incompétence, parce qu'ils ne connaissent pas les règles, ouais. Parce que les règles sont trop compliquées. Prends par exemple.
C'est marrant cette habitude que tu as de déresponsabiliser.
Mais
les gens.
Je déresponsabilise.
Bah, si c'est jamais de leur faute.
Au contraire, moi je te dis, si on leur faisait passer un permis, s'ils étaient obligés de connaître les règles, là tu peux les responsabiliser et les mettre devant le fait accompli en disant attendez, les règles vous les connaissiez, vous avez un permis et donc si vous les avez transgressées, c'est que vous les avez transgressées délibérément.
Mais encore faut-il pouvoir leur mettre des amendes et faire respecter les règles.
Mais moi automobiliste, attends, il y a des fois il y a des boulevards dans Paris où un coup t'as la file des bus, la file des voitures, un coup la file des bus elle part à droite, un coup elle revient au milieu, un coup tu sais plus,
oui,
des fois tu te retrouves, non mais je te jure,
je rappelle qu'Emmanuel Le Chiffre fait ses courses en trottinette, donc tu sais de quoi tu
parles. Des fois
tu
t'es sur la file des bus, tu crois que t'es sur, non c'est un, c'est
tu
un,
es perdu,
t'es perdu, il y a pas que des gens qui,
oui, tu souffres, pauvre petit,
voilà,
chat. Allez, on va continuer à parler ensemble des vélos et des trottinettes. Est-ce qu'on leur a donné trop de droits? On vous attend au 32-16. Un grand merci à Karim qui était avec nous au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Deux piétonnes sont entre la vie et la mort à Paris. L'une a été renversée par un vélo, l'autre par une trottinette électrique, évidemment. Alors, a-t-on donné tous les droits aux vélos et aux trottinettes pour Neumann Le Chiffre? Oui, c'est scandaleux. Ils rendent la ville totalement invivable pour Laurent Neumann. Non, il défend les vélos et les trottinettes. Elles sont moins dangereuses et ils sont moins dangereux que les voitures et les vélos.
Mais attends, faut donner un chiffre quand même. Hein.
Oui,
les derniers chiffres qu'on a, c'est 2019. 184 morts à vélo, 11 morts sur des trottinettes. D'accord. Il y a donc plus de morts.
Tu parles en France ou à Paris?
Ah non, je parle en France. En France, il y a donc plus de morts. Les gens qui font du vélo.
Non, mais on a les chiffres 2020,
sont plus victimes que auteurs d'accidents.
35% en plus de cyclistes blessés dans la capitale en 2020.
Oui, mais il y a 30% de cyclistes en plus aussi.
Il n'y a pas 30%.
Et surtout, est-ce qu'ils en sont responsables?
Alors que le nombre d'accidents
global
baisse. Mais attends, Laurent.
À Paris, il y a plus 30% de cyclistes.
Il s'agit, mais pas en un an.
Bah si.
Mais non.
Bah là, la hausse est très forte quand même la dernière année.
Laurent, accident de cycliste, l'idée n'est pas de fustiger, de stigmatiser les cyclistes. Il y a aussi des accidents de cyclistes qui sont provoqués par un environnement dangereux pour les cyclistes. Moi, je pense qu'à un moment, il y a un principe d'incompétence qui s'applique. C'est ce que je te disais. Il y a des situations dans lesquelles tu ne sais plus quoi faire.
Donc, t'es d'accord, c'est toujours une erreur humaine.
Alors, on est avec Michel.
Qui est quand même incité par des mauvais signaux qui sont envoyés par l'environnement, par les panneaux.
Je suis d'accord.
On est avec Michel qui nous appelle depuis le Canet dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Toi, Michel, tu es retraité. Tu as été accidenté à Paris il y a quelques années à cause d'un cycliste.
Ah oui, en 73. Je traversais rue de l'Échelle, au croisement de la rue de l'Échelle et de la rue Saint-Honoré, quand un cycliste a brûlé le feu rouge et m'a renversé sur le passage clouté. Bon, je me suis dit à l'époque, ça va me coûter un gros talon, parce que naturellement, il est reparti à fond la caisse et il était impossible à retrouver.
Il a pris la fuite. Ouais.
Bien sûr, c'est un grand classique. Hein. Les cyclistes ne sont pas respectueux du code de la route, et Laurent devrait venir dans mon quartier, il aurait vu ce que c'était à l'époque. Peu importe, le lendemain matin, je me réveille et je m'aperçois que j'ai des problèmes avec mon œil droit. C'est-à-dire que dans le choc, quand j'ai été voir mon médecin, il m'a dit « Votre implant a bougé. » Et qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je lui ai expliqué. Il m'a dit « C'est le choc. » Et du coup, aujourd'hui, je peux voir de loin, regarder la télé. Je suis condamné à regarder la télé parce que j'ai beaucoup de mal à lire. Et moi, je suis un garçon qui a fait des études compliquées, qui organisait des grandes sociétés, qui travaillait dans un cabinet international. Je suis plutôt un intellectuel. Et là, c'est quand même gênant.
De ne pas pouvoir lire, mais oui, c'est Michel, très handicapant.
C'était en 73 ?
Pardon ?
C'était en 60...
Non. Je suis né en 1942. Et ça m'est arrivé en 2013.
D'accord. Okay.
Excusez-moi.
Ah ouais, 2013. Ah ouais.
Donc c'est quand même avant que Paris ne devienne encore plus. Enfin, c'était moins un enfer qu'aujourd'hui, quand même.
Oui,
c'est pire.
C'est une opération. Je pourrais me faire opérer, mais c'est une opération dite délicate. Quand un des meilleurs chirurgiens dans ce domaine vous dit en France que c'est une opération délicate, ça s'appelle une vitrectomie, c'est-à-dire qu'on vous enlève le gel à queue de l'œil.
Mais en tout cas, pour toi, c'est pas un petit accident.
Pardon, Michel, t'as porté plainte, il y a eu une enquête, on a cherché à retrouver l'auteur.
Non, j'ai pas porté plainte, parce que sur le moment, je me suis dit, c'est mon pantalon. Comme le type, il avait foutu le camp, je me suis dit, c'est pas la peine que je m'excite, je porterai plainte, on le retrouvera jamais. Et après, au bout d'une journée, quand je me suis réveillé le lendemain, je n'allais pas porter plainte.
Au début, tu as cru que c'était rien. Et puis finalement, ça s'est révélé être plus grave que prévu. Merci beaucoup, Michel, pour ton témoignage dans Neumann le Chypre. On est avec Guillaume qui nous appelle depuis Saint-Raphaël. Bonjour, Guillaume.
Oui,
Guillaume.
Allô, oui, bonjour.
Oui, salut, Guillaume. Toi, tu es commercial. Tu penses que c'est un problème de formation des cyclistes?
Oui, tout à fait. Alors moi, pour expliquer un petit peu d'où je viens... Moi, je suis un ancien cycliste professionnel qui maintenant travaille en tant que commercial dans le vélo. Donc, je vends des pièces de vélo. Et moi, j'ai eu ma carrière cycliste s'est arrêtée un peu prématurément parce que je me suis fait renverser, qui m'a créé des problèmes cardiaques, etc. par un automobiliste qui m'a laissé pour mort sur le bord de la route. Et moi, pour le coup, je suis pour Laurent, mais je trouve que Emmanuel a aussi des bonnes idées. C'est-à-dire qu'en gros, quand il parle de formation, moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on passe un permis de conduire pour pouvoir permettre de conduire en ville, etc. Donc, on peut même aussi retirer. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce système de formation, il n'est pas assez développé en France. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est-ce qui forme les cyclistes ou qui est-ce qui forme les personnes au vélo? C'est soit des personnes qui interviennent dans des écoles, soit c'est par l'intermédiaire des clubs. Et alors aujourd'hui, les clubs, ils ont de moins en moins de subventions, donc il y a de moins en moins de clubs. Alors que pour autant, le cyclisme reste un sport qui est quand même... C'est le seul sport qui permet d'être... qui entre guillemets est gratuit. Le Tour de France est gratuit, on peut encore aller voir le Tour
de France. Mais est-ce que tu penses, Guillaume, que tout le monde ne devrait pas pouvoir faire du vélo?
Eh ben moi non, moi je pense que tout le monde aurait le droit de faire du vélo, mais tout le monde devrait avoir cette formation. Je prends l'exemple de la marraine de mon fils qui elle est prof de sport et qui forme les élèves sur le vélo. C'est-à-dire elle est spécialisée dans le vélo, elle va dans des écoles, elle apprend aux enfants à faire du vélo, elle apprend aux enfants le code de la route aussi, la manière de se comporter sur un vélo, de se serrer à droite, de se mettre deux par deux ou se mettre en file indienne pour laisser passer les automobilistes. Mais en fait, c'est une question de formation et comme a dit Laurent aussi, c'est une question humaine. Du respect du code de la route. Alors d'aujourd'hui en France, malheureusement, moi je le vois moi personnellement en tant que coureur, en tant que cycliste, il y a beaucoup de cyclistes qui font du mal au cyclisme, comme il y a beaucoup d'automobilistes qui sont vraiment des très mauvais comme des très bons automobilistes. Et il y a un gros delta. Sauf que tant qu'il y aura ce delta-là sans formation, il n'y aura rien. Tout à l'heure, on parlait des pays où il y a de plus en plus de cyclistes, c'est-à-dire les pays nordiques comme la Hollande. Bah, il y a énormément de cyclistes, certes, il y a toujours autant d'automobilistes. Cependant, tous les jeunes apprennent à faire du vélo. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, apprendre à faire du vélo, c'est comme apprendre à nager. On va pas.
Pas juste apprendre à pédaler, c'est aussi apprendre à partager la route.
Mais dès l'instant où tu occupes la voie publique, tu dois connaître les codes de circulation sur la voie publique. Donc un permis pour toute personne qui s'engage sur la voie publique. Point barre.
Merci beaucoup Guillaume. Il y a apparemment des pays où ça se passe bien. C'est l'exemple que voulait nous donner François qui est au 32-16, mais que malheureusement on ne va pas avoir le temps de prendre. Il disait qu'à Madrid ça se passe bien, que tout le monde s'arrête au feu rouge, même les livreurs Uber Eats. C'est quand même un signal fort. Lisa Marie, quel est le résultat définitif?
L'écart s'est encore creusé. Vous êtes finalement 82% à avoir répondu comme Emmanuel Le Chypre. Oui, on a donné tous les droits aux vélos et aux trottinettes électriques.
Enfin, si on leur a pas donné, en tout cas, ils les ont pris.
Ah bah, toi aussi, t'es d'accord? T'aurais voté
oui,
Emmanuel Le Chypre?
Oui, c'est pas faux.
Ah, c'est beau cette entente. Allez, on va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chypre.
Le C'est quoi ça?
Et on joue aujourd'hui au C'est quoi ça avec Stéphane et Isabelle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour tout le monde.
Stéphane, tu es éducateur sportif. Tu nous appelles de Villiers-sur-Orge dans l'Essonne. Est-ce que tu veux jouer avec Laurent ou avec Emmanuel?
Avec Laurent.
Alors, salut Stéphane.
Stéphane, Laurent, Isabelle.
Bonjour Laurent.
Allez, toi, Isabelle. Tu es agent d'accueil. Tu nous appelles depuis Plot. C'est dans le Cantal. Première question entre Isabelle et Stéphane. N'oubliez pas de buzzer avec votre prénom pour, avant de donner votre réponse. Et on joue pour un séjour en thalassothérapie dans les hôtels Thalazur. C'est à Antibes aujourd'hui.
Oh, c'est beau Antibes.
Dans le sud. Vous êtes prêts Stéphane, Isabelle? Quelle équipe affronte demain l'équipe de France de football
pour Stéphane. Son...
Stéphane. Stéphane?
La Hongrie.
La Hongrie, absolument. Deuxième match de l'Euro, c'est demain. Question entre Laurent et Emmanuel. Elle devrait rouvrir en juillet avec des conditions spécifiques, a annoncé Olivier Véran. Oui.
Les discothèques.
Oui, absolument. Deuxième point pour Laurent. Question entre Stéphane et Isabelle. Qu'est-ce qui aura lieu ce week-end pour le premier tour?
Les élections
Isabelle.
Municipales. Oui.
Isabelle, les élections municipales, fais bien attention. Isabelle a bien donné ton prénom avant ta réponse. Oui. Question entre Laurent et Emmanuel, les élections régionales. C'est ça que t'as dit, Isabelle?
Non, elle a dit municipale.
Non, t'as dit municipale.
Elle a dit, ok, d'accord.
Quelqu'un a entendu quelque chose?
Non, elle a dit municipale.
Oui, mais après, elle s'est reprise.
Mais bon, elle s'est reprise après, elle a dit régionale.
Moi, je suis pour la mansuétude.
C'est les régionales, c'est dimanche, premier tour, et la semaine d'après, deuxième tour. Question entre Laurent et Emmanuel. La justice a requis hier...
Laurent.
Vas-y.
Un an de prison, 6 mois de prison ferme pour... contre Nicolas Sarkozy.
Absolument. Troisième point pour l'équipe Laurent Stéphane. Question entre Isabelle et Stéphane. Quel joueur de tennis s'est déclaré forfait pour Wimbledon et les JO? Stéphane?
Nadal.
Oui, absolument. Question entre Laurent et Emmanuel. La saison 2021 de Formule 1 se poursuit ce week-end. Quel grand prix aura lieu dimanche?
Manu. Laurent. Manu. J'ai dit Manu d'abord.
Ouais.
Imola.
Quoi?
Imola. En Italie.
Non, c'est pas ça.
San Marin.
Non.
Non, Bahreïn.
Non.
Non, c'est en Europe.
Alors la réponse, bon, mais pas, je suis incapable de vous évaluer la qualité de vos réponses, c'est le Grand Prix de France sur le circuit de Paul Ricard.
Ah bah oui.
C'est le Grand Prix de France.
Oui, c'est le Grand Prix de France ce week-end. En même temps, si on posait la question, on aurait dû s'en douter. Ouais.
C'est la dernière question entre Stéphane et Isabelle. Quelles équipes s'affrontent aujourd'hui à 20h45 en demi-finale du Top 14?
Ah, je le sais.
Stéphane, Isabelle?
Stéphane, ça doit être Toulouse.
Non, c'est les autres. Non.
Oh non.
Non. Il y a un très joli port de pêche.
C'est demain, Toulouse.
La Rochelle, Clermont.
Oui. Non, après,
non, c'est non. La Rochelle, le Racing. Mais de toute façon, Stéphane, c'est toi qui gagnes parce que tu as déjà 4 points face à Isabelle qui a un seul point.
C'était
c'est
beaucoup
toi.
Des questions de garçons quand même,
oui,
je trouve.
Tout à fait.
Ah, parce que le sport.
Ouais.
Parce que le sport, c'est pour les garçons.
Excuse-moi, le rugby, le foot, la politique.
La politique, c'est pour les garçons. Mais tu veux qu'on se batte ou quoi?
Nicolas Sarkozy, c'est pour les garçons.
D'accord. Eh bien écoutez, n'allez pas vous recoucher tout de suite. Restez avec nous.
Désolé Isabelle, désolé.
Stéphane, c'est toi qui gagnes ton séjour en thalassothérapie. J'aimerais bien venir avec toi, ça me ferait peut-être un peu de bien. Pour.
Il a gagné le
tranquille. J'avoue, il n'y a aucun souci pour moi.
2 jours, 2 nuits à Antibes, à l'hôtel Baie des Anges, Thalazur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué avec nous. Au rejour à lundi.
Neumann Le Chypre sur RMC avec les 9 hôtels Thalazur Thalassothérapie Spa. Thalazur, pour vivre à deux des moments de bien-être et d'évasion en bord de mer.
Je crois que tu pars en thalasso.
Ouais, mais ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler football. Encore un truc de garçon. Est-ce que les filles vont pouvoir comprendre quel enjeu? Je ne sais pas. Restez avec nous. Les joueurs de football retirent des bouteilles de bière et de soda passées devant eux lors de leur point presse. Bonne ou mauvaise initiative. On vous attend au 32-16 sur RMC. On revient tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et leur closé.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver. C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est l'heure closée, on est ensemble jusqu'à 14h. À 14h, vous retrouvez du football avec Intégral Euro et Pierre Dorian. Mais nous, on va parler déjà un peu de football avec ces footballeurs qui retirent des bouteilles de bière et de soda placées devant eux lors de leur point presse. Bonne ou mauvaise initiative, c'est jusqu'à 14h. Et à 13h50, on est vendredi, c'est le jour où les notaires répondent à toutes vos questions. Aujourd'hui, ça sera une question de Frédéric qui veut vendre sa maison en France alors qu'il habite en Espagne, il veut tout faire à distance. Eh bien, un notaire lui répondra tout à l'heure. Mais avant, on parle sport, boisson et sponsor. L'action de Coca-Cola a plongé en bourse ces derniers jours et il n'est pas impossible que Cristiano Ronaldo y soit pour quelque chose. Le joueur de foot de l'équipe du Portugal a rangé deux bouteilles de la marque pour les remplacer par de l'eau lors de sa conférence de presse avant le match de l'Euro Hongrie contre Portugal. No Coca, Agua, a-t-il lâché. À peu près au même moment, lundi, Paul Pogba, invité à s'exprimer avant le match France-Allemagne, a lui enlevé une bouteille d'Heineken sans alcool. Elle a été posée également devant lui sur la table. Coca-Cola et Heineken font partie des 6 sponsors officiels de la compétition. Ils auraient versé un ticket entre 40 et 50 millions d'euros. Interrogé par Libération, l'UEFA déclare que chacun est libre de boire les boissons qu'il préfère et qu'aucune procédure disciplinaire ne sera ouverte. Alors que pensez-vous de ces joueurs qui enlèvent les bouteilles des sponsors lors des conférences de presse? Emmanuel, tu dis c'est scandaleux.
Oui, c'est scandaleux parce que encore une fois, il y a des règles. On n'est pas dans un cadre totalement libre. Il y a des sponsors, tu as donné les chiffres, qui payent très cher pour que leur marque soit mise en valeur dans des cérémonies et dans des manifestations comme l'Euro. C'est grâce à l'argent de ces sponsors qu'on permet d'organiser l'Euro. C'est grâce à l'argent de ces sponsors qu'on verse des primes aux joueurs. Donc, s'ils ont le moindre professionnalisme, eh ben c'est de respecter les contrats qui ont été signés. Donc, la règle du jeu, c'est qu'ils font les conférences de presse devant les produits de ces sponsors. Et ben voilà, ça viendrait pas à l'idée, par exemple.
Donc, un sportif est aussi un homme sandwich.
Mais c'est un homme sandwich. Ce sont des gens qui sont payés pour ça. Ce sont des gens qui sont payés par le business et qui en vivent. Donc, à partir de là, moi, je trouve scandaleux qu'on se permette ce genre de choses. Voilà. Après, dans leur vie perso, qu'ils fassent ce qu'ils veulent ou qu'ils aillent sur les réseaux sociaux dire les sodas, c'est pas bon pour la santé, la bière, c'est pas bien pour la santé non plus. Mais très bien qu'ils le fassent. Mais là, dans ce cadre-là, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Voilà, ils se croient tout permis. Jamais un type comme Roger Federer aurait fait quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez, bah, y a des gens qui ont pas de savoir-vivre, il y a des gens qui pensent qu'à je sais pas quoi, qui ont pas de cerveau.
Bah, ils ont peut-être des convictions, ça va être le ce que
ouais, mais les convictions, tu les gardes pour toi. Ou alors.
Ah bah, c'est nouveau ça.
Non, mais tu les gardes pour toi, ou alors tu rentres pas dans un système qui te fait vivre en crachant sur ce système. Moi, le truc que je déteste le plus sur Terre, c'est les gens qui crachent dans la soupe. Voilà. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Donc, t'assumes pas, bah, t'y vas pas, ou alors tu vas pas à la conférence de presse, ou je sais pas, mais en tout cas, tu te comportes pas comme ça.
Laurent, les convictions, on les garde pour soi.
Alors, c'est drôle parce qu'on a déjà eu ce débat sur un autre sujet, mais les footballeurs, ils sont comme toi, comme moi, ils ont le droit d'avoir des convictions. Et donc, ça peut s'exprimer sous cette forme-là. Et moi, cette scène-là, elle m'a donné une autre idée. Oui, tu as raison, les joueurs de foot sont des hommes sandwich.
Ben, bien sûr.
Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas des représentants de commerce. Et donc, qu'il y ait des marques derrière eux ou sur leurs t-shirts, ça ne me gêne pas. Et tu as raison, les marques payent assez cher pour ça. Tu as raison de dire, il faut pas mordre la main qui te nourrit. Je suis d'accord avec tout ça. Mais pardon, aller jusqu'à mettre des produits sur une table, des produits. Mais attends, on n'est pas dans un supermarché. Et alors, demain, ce sera quoi? Ce sera des tranches de jambon? Attends, c'est pas possible. Qu'il y ait des marques derrière. Bah oui, ils ont payé pour être là.
Alors tu vois,
ça serait trop marrant. Alors attends, prenons
un exemple. Pourquoi par exemple, ils prennent pas un truc, une bombe de peinture et qui hop derrière sur le mur où il y a tous les sponsors, hop tac.
Parce que je te dis, c'est toute la différence entre un homme sandwich et un représentant de commerce. C'est pas un représentant de commerce. En plus, pardon, cet argent, il va pas dans la poche de Ronaldo. Il va dans la poche des organisateurs de l'euro.
Ouais, d'accord. Oui, et après, les primes sont redistribuées. Non, avec mais
ça
cet
veut
argent.
Dire que pour toi, si la marque est écrite, ça passe. Si le produit est présent, c'est pas pareil.
Ah, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Et puis, il y a une deuxième chose. Les joueurs de foot, ce sont des influenceurs. C'est pas seulement des hommes sandwich. Et effectivement, t'as commencé en disant à juste titre, alors, après ce geste de Ronaldo, l'action du groupe Coca-Cola a perdu 1 euro. 1 euro, ça a l'air de rien. Mais 1 euro, c'est 4 milliards de capitalisation boursière. Donc ça veut dire que finalement, ce geste de Ronaldo, il a peut-être fait plus pour les bonnes pratiques nutritionnelles que tous les grands discours des médecins les plus célèbres ou que ces petits bandeaux que tu vois sous les pubs en disant il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc ça veut dire que ça pèse. Et oui, les convictions des gens, ça a un sens, pas seulement dans la lutte anti-racisme, mais aussi peut-être dans le bien manger, le bien boire pour tous les adolescents qui prennent Ronaldo pour une idole, un modèle, un exemple. Voilà, c'est mon avis.
Et tu as le droit de venir avec tes convictions dans cette émission. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux sociaux.
Oui, on vous demande ce que vous pensez de l'initiative des footballeurs lors de l'Euro qui ont retiré une bouteille de coca, une bouteille de bière lors des conférences de presse. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise initiative? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Asdine qui est chauffeur VTC et qui nous appelle depuis Asnières. Bonjour Asdine.
Oui, bonjour à tous, vous allez bien?
Pour toi Ronaldo, oui ça va bien, pour toi Ronaldo a eu raison à 100% de faire ce geste.
Mais pour moi Ronaldo, déjà alors, vous parlez des sponsors, les sponsors sont là pourquoi? Les sponsors sont là parce qu'il y a des grands joueurs comme Ronaldo qui jouent cette compétition. Donc c'est pas là on a inversé les rôles. J'ai l'impression que vous dites que Ronaldo il devrait remercier Coca de jouer au foot. Alors que pas du tout. C'est plutôt Coca qui doit remercier Ronaldo d'être à ce niveau-là et de leur donner de la visibilité pour que eux puissent poser leur truc. Ensuite, on est les premiers à dire que les joueurs de foot sont des modèles pour les jeunes, sont des modèles dans la société, doivent donner leur avis sur tout, sur la politique, etc. Et là, on a un joueur, clairement, qui dit que Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé, il vaut mieux boire de l'eau. Qu'est-ce que vous vous demandez de plus? C'est pas comme s'il avait dit « ne buvez pas Coca, mais buvez de l'Orangina », ça n'a rien à voir.
Alors je te rappelle quand même, Asdine, je vais me tirer un but contre mon camp, mais je te rappelle qu'il y a quelques années, le même Ronaldo a tourné une pub pour Coca-Cola.
Ouais, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci de l'avoir dit à ma place.
Et voilà, tout simplement. Paul Pogba, pareil, il enlève une bouteille de Heineken. C'est une Heineken zéro, on est d'accord, c'est une boisson sans alcool.
Sans alcool.
Mais d'accord.
Il faut le savoir, quoi.
Mais on n'est pas des imbéciles, on sait très bien qu'Heineken, Heineken 0% pour derrière vendre de l'Heineken avec de l'alcool. Enfin, c'est une pub déguisée, c'est comme à l'époque où on voyait sur les voitures de Formule 1 Marlboro. Aujourd'hui, on le verrait.
Non, mais Asdine, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas une pub déguisée, c'est une pub chèrement payée. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu veux, quand tu es sponsor, on se met d'accord sur un protocole. Toi, tu mets tant d'argent et en contrepartie, tu as telle exposition.
Mais je suis d'accord. Il n'y a pas de problème.
Donc, dès l'instant où l'accord est signé, tout le monde doit le respecter. Qu'en dehors de cette conférence de presse, Ronaldo fasse des campagnes en disant buvez pas de soda, c'est mauvais pour la santé. Alors, et que Pogba fasse la même chose. Mais
je vais te poser la question autrement, Emmanuel. Nous sommes dans un média privé. Nous vivons de la publicité. C'est un secret pour personne. Est-ce que tu accepterais de présenter cette émission avec devant un morceau de jambon, un paquet de couches et que ça fasse partie du deal publicitaire?
Bah évidemment.
Donc toi sans problème?
Bah oui, si, sans problème, mais je vois pas le...
Bah si, parce que tu peux avoir un contrat publicitaire qui te fait vivre et là, qui rémunère.
Non, mais si le deal de l'émission, c'est que tu vas gagner 50 000 euros par mois parce que à chaque émission, il y aura devant toi une bière, un paquet de couches, un baril de lessive.
Tu dis oui.
Tu es libre.
Oui,
non, mais attends, tu es libre de dire oui ou non. Mais une fois que t'as dit oui, bah, tu t'engages à le faire.
Mais pardon, Ronaldo, il a pas dit oui.
Les conférences de presse, c'est réglementé. Il y a des conditions dans lesquelles tu viens participer à la conférence de presse. Et voilà, c'est pas le patronat.
Est-ce que tu es d'accord?
Asdine,
moi, je fais une grosse différence entre une marque sur un maillot, un t-shirt, des marques sur un mur derrière pour les télévisions.
Ouais.
Et des produits eux-mêmes qui sont devant toi. Mais tu donnes l'impression que Ronaldo vante la bouteille et boit lui-même du Coca-Cola.
Mais non, on lui demande pas parce que tu pourrais avoir aussi. Parce que je suis désolé, ça c'est vu. T'as des émissions. Parce que tu parles des émissions, mais t'as des émissions de divertissement par exemple dans lesquelles les jurés ont devant eux des énormes verres, des énormes tasses avec la marque et où ils sont obligés de boire pendant l'émission.
Ouais.
Donc Ronaldo, on lui demande pas de décapsuler la bouteille de
ça
Coca.
Ça porte un nom.
Comme t'entends à Roland Garros et puis de boire et d'avoir l'air au paradis quand il boit son Coca-Cola, il est juste devant lui.
Emmanuel, ça porte un nom, ça existe au cinéma, ça s'appelle du placement de produit.
Oui, absolument.
Ça porte un nom, mais les joueurs sont pas obligés de se prêter à ça.
Mais d'ailleurs, on lui demande pas de le boire.
Asdine, est-ce que toi, ça augmente ton rapport aux joueurs? Tu te dis là, franchement, les mecs, ils ont assuré.
Mais moi, je me dis respect, je me dis la déconviction, et peu importe combien ça coûte, et peu importe si derrière, peut-être en termes d'image, il perdra des aficionados, entre guillemets. Mais derrière, à titre personnel, si j'avais 14 ou 15 ans, je vois Ronaldo, c'est mon idole, j'adore le voir jouer, je suis fan de Ronaldo. Et ben moi, quelque part, je me dis, mais ce mec-là a tout compris. Il dit aux jeunes, ne buvez pas de coca, c'est mauvais pour la santé, buvez de l'eau.
Influenceur.
Alors, on est avec Thomas qui partage pas ton avis, Asdine, qui nous appelle depuis Metz. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Toi, tu es livreur et tu dis, Ronaldo, faut qu'il soit cohérent, globalement, dans toute sa démarche.
Bah, exactement, parce qu'il me semble que c'est lui qui est égérie de chez Nike. Et pourtant, au niveau de ses chaussures, quand il les sort, c'est des pompes qui valent plus de 300 euros. Et il me semble que tous les enfants, ils veulent les pompes de Ronaldo. Mais les pompes de Ronaldo de chez Nike, ils sont faites où ? Sont faites dans des pays du tiers-monde, il me semble, non ? Donc, qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche. C'est vrai que Ronaldo a été élu le meilleur joueur du 21e siècle. Mais qu'il aille jusqu'au bout, oui, c'est bien, ne buvez pas de coca. Mais dans ces cas-là, qu'il boycotte Nike.
Qui rende ses chaussures, qui...
Bah oui, vous allez dans un intérêt...
Non mais attends, Thomas, je ne suis pas l'avocat de Ronaldo, mais pardon, jusqu'à preuve du contraire, Ronaldo, ce n'est pas un saint. On lui demande pas d'être l'abbé Pierre, on lui demande pas d'être irréprochable dans sa vie de tous les jours. Mais clairement, quand il fait ce geste, il envoie un message. Il fait de l'influence, c'est un influenceur.
Mais est-ce que vous pensez
le message.
Attendez, j'aimerais bien avoir votre avis à tous.
Bon, je finirai ma phrase
Vas-y, pardon.
Non mais il envoie juste un message aux gosses en disant les sodas sucrés, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est tout.
Est-ce que vous pensez tous, et ça m'intéresse d'avoir votre avis, est-ce que vous pensez que c'était prémédité, etc. Ou est-ce qu'il arrive là, il se dit tiens, c'est quoi non, j'en veux. Et, tu vois, est-ce qu'il y avait préméditation ou est-ce que c'est un acte spontané à votre avis?
Ah, je pense que c'est un acte spontané parce que quand tu le vois sur les images, il s'assoit et ça n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il voit les deux bouteilles, qu'il les prend et qu'il les déplace.
Sauf qu'il a bien dû voir d'autres conférences de presse où c'était exactement pareil.
Je sais pas.
Bah, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Asdine,
non, c'est Thomas qui est. Thomas.
Asdine, pardon, Thomas.
Oui.
Tu penses qu'il s'était prémédité son truc ou pas?
Non, pour moi c'est quand même quelque chose de spontané, mais je reste sur ma position. Dans ces cas-là, si c'est un influenceur, comme Laurent le dit, bah, qu'il aille jusqu'au bout. C'est le premier à dire ne faites pas ça, il a une hygiène de vie parfaite, entre guillemets. Mais dans ces cas-là, bah, moi je suis désolé, il y a plein d'associations, d'ONG qui prônent le travail des enfants, enfin qui ne prônent pas, mais qui se battent contre le travail des enfants.
Pour de meilleures conditions dans les ateliers.
Oui, voilà. Donc, qu'il aille jusqu'au bout. On ne le demande pas d'être un saint. Mais si tu fais ça à ce moment-là, que ce soit spontané, jusqu'au bout de la démarche, fais-le surtout.
Oui, tu veux de la cohérence, globale sur le comportement du joueur.
Je vais te prendre un exemple. Griezmann, qui s'est engagé pour le sort des Ouïghours fait par les Chinois, qui a renoncé à un contrat de sponsoring avec une célèbre marque de téléphone portable. Bah, je suis sûr que s'il arrivait à une conférence de presse avec ce fameux téléphone portable devant lui, je pense qu'il aurait enlevé le téléphone portable.
Oui, mais il a renoncé à beaucoup d'argent pour ça. Il est cohérent dans sa démarche.
Bah oui.
Et maintenant, il s'habille en Balmain. Vous n'avez pas vu sa dernière campagne où il est habillé en Balmain ?
Non.
Eh bien, je vous conseille. Il faut vraiment que vous mettiez à Twitter, les garçons. C'est pas possible. Hein. Faut passer dans le monde de la modernité. Allez, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, on va prendre personne.
La modernité, c'est d'aller voir les.
Comme ça, allez voir Griezmann et la costume, campagne Balmain, c'est drôle. Allez voir.
Griezmann, excuse-nous, on n'a pas les mêmes followers. Et on ne suit pas non plus les mêmes personnes.
D'accord, on est différents.
Voilà.
Merci beaucoup à Asdine et à Thomas d'avoir été avec nous dans Domaine Le Chip. Dans un instant, on sera avec Sébastien qui nous attend depuis Châlons en Champagne. Et on sera avec Jean-Pascal Gaillan, professeur de sciences économiques à l'Université du Mans et auteur de Économie du sport. On vous attend, vous, au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC. Midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Des joueurs de foot retirent des bouteilles de bière et de soda placées devant eux lors du point presse. C'est ce qu'a fait Paul Pogba. C'est ce qu'a fait également Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative pour Neumann Le Chypre? Mauvaise et scandaleuse. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Il déteste les gens qui crachent dans la soupe. Pour Laurent Neumann, bonne, pas question de renoncer à ses idées pour de l'argent. Même si ça dépend quand même du prix.
Attends, je peux te raconter une petite anecdote.
T'as déjà renoncé à tes idées pour de l'argent ?
Ah bah tout, je fais ça tous les jours, moi. Tous les jours. Non, mais attends, je vous raconte une petite anecdote parce que quand même, elle est savoureuse. Il y a deux joueurs hyper connus de l'équipe d'Angleterre qui s'appellent Harry Kane et Marcus Rashford. Et Marcus Rashford, c'est quelqu'un en plus qui est très très engagé pour des tas de causes très importantes, notamment sur le sort des enfants, etc. Et alors les deux, ils sont tombés à bras raccourcis sur Ronaldo en disant mais c'est un scandale ce qu'a fait Ronaldo, etc. Ils ont juste oublié de nous dire qu'ils ont un petit contrat chacun avec Coca-Cola. Et donc tu vois, eux, ils ne renoncent pas à leurs convictions parce qu'en l'occurrence, leurs convictions sont dictées par l'argent.
Et il y a un joueur d'une équipe, mais je sais pas dire quel
D'Ukraine.
Pays. D'Ukraine qui a dit moi je suis disponible si vous voulez me sponsoriser.
Ouais, il a pris la bouteille, il a pris les deux bouteilles de Coca et d'Heineken en disant moi si ça vous intéresse je suis disponible.
Et mais le chiffre est apparemment disponible également.
Absolument.
Pour porter des bouteilles de Coca à l'antenne.
T'es prêt à travailler avec des couches,
tout
des,
devant.
Ah mais tout, mais moi je suis. Mais une vraie gondole, pas de problème, un supermarché à moi tout seul.
Tu feras goûter des dégustations, tout ça.
T'as été tête de gondole à Venise.
Lisa Marie, oh là là, Lisa Marie, quel est le début des résultats des votes?
Vous partagez plutôt l'avis de Laurent Neumann, l'homme qui n'est pas un homme sandwich. Vous êtes 60% à trouver que les footballeurs ont eu raison de retirer la bouteille de Coca, la bouteille de bière devant eux lors du point presse.
Ça te fait rire?
Ben oui.
T'es pas un homme sérieux.
Oui, parce qu'attends, mais on peut tout raconter ou pas?
Oui, on a attaqué
bon,
par une mouche.
Il y a une mouche dans ce studio et la mouche était sur moi, elle vient de passer sur Lisa Marie et ça m'a fait rire. J'y peux rien. C'est d'où la célèbre expression, c'est les mouches ont changé
d'âme.
Alors
Emmanuel et moi, nous n'avons pas été attaqués pour l'instant. Allez, on va au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Sébastien qui nous appelle de Châlons-Champagne. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Toi, tu es infirmier, Sébastien. Tu es plutôt de l'avis de Laurent Neumann. Tu penses qu'ils ont raison de se désolidariser des sponsors?
Ouais, aujourd'hui, je suis plutôt côté Laurent, ce qui n'arrive jamais en temps normal.
Ah. C'est fou, Laurent, aujourd'hui, le nombre de gens que tu convaincs.
Les gens même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?
Alors, vas-y.
Non, effectivement, visiblement, c'est des sponsors qui sont en partenariat avec la compétition. Et moi, je me dis, si j'étais joueur, j'ai pas forcément envie d'associer mon image à tel produit. Si le produit est devant moi et que le plan ne me concerne que moi et le produit, et j'écarte le produit et puis fin de la discussion. Après que l'Euro de football ne soit pas content, que Coca-Cola soit pas content, à qu'ils aillent faire une réflexion à Ronaldo, je serais curieux de voir un petit peu ce qu'ils font.
Bah là, ils ont rien fait du tout, hein. T'as vu, ils ont pas.
Voilà. Ah, il pourrait même porter plainte contre Ronaldo pour
non-respect des termes du contrat.
Ah oui, bien sûr. Mais je crois pas.
Vas-y, Sébastien.
Honnêtement, qu'ils essayent, mais je pense que ça leur fait plus de tort qu'autre chose.
Ouais, je crois aussi.
Et le deuxième point, c'est que alors je fais pas du tout de prosélytisme parce que j'ai du Coca-Cola dans mon frigo. C'est du Coca Zéro parce que j'ai plutôt le physique d'Emmanuel que le physique de Laurent et on essaie de faire attention comme on peut. Mais j'ai aussi deux enfants et on fait un peu la chasse pour éviter que les enfants s'habituent à boire sucré, à boire ce type de boisson-là, etc. Et Ronaldo, quand il a fait ce geste-là, il a complètement relégitimé ce que j'essaie de mettre en place chez moi.
Ah ouais, tu peux dire même années. Ronaldo vous le dit.
Bah oui, bah voilà. Oui, ça a plus de force que tous les discours des parents, de l'État, des médecins, etc. Oui, Ronaldo, il prend les bouteilles, il les vire, ça a plus de force. C'est un vrai, c'est ouais, ça un influenceur.
Les images sont passées à la télé. Mon grand 8 ans, il a vu ça. Il m'a posé la question. Et papa, pourquoi est-ce qu'il écarte le Coca? C'est quoi le problème avec le Coca? Voilà. Et du coup, et ben ça donne un peu de résonance du coup à ce qu'on dit au quotidien et aux messages qu'ils ont 10 fois par jour à la télé, à l'école, manger, bouger, etc.
C'est un allié pour les parents, Ronaldo.
Ben, je ne sais pas si c'est un allié pour les parents, mais en tout cas, si pour une fois il peut relayer quelques messages de bon sens et de santé publique, c'est pas une mauvaise chose qu'on lui tombe pas à bras raccourcis dessus. Et puis quand il a décidé de lui-même, de son propre chef, de s'associer à Coca-Cola pour un spot publicitaire, et bah à la rigueur, il le fait là pour le coup de son plein gré. On lui reprochera si jamais il le refaisait un manque de cohérence. Mais là, à mon avis, effectivement, il y a quelques minutes, si c'était spontané ou non, je pense que oui, on est complètement dans la spontanéité.
Après ce geste-là, je pense que Ronaldo ne peut plus signer aucun contrat publicitaire avec Coca-Cola, ou alors on n'y comprend plus rien.
Va savoir s'il ne ferait pas une campagne pour manger bouger ou un truc comme ça, tu sais pas. Hein.
Ouais, un truc. Ouais, il y a peut-être une société de tofu là qui peut le contacter
pour une campagne de bien-être.
Ouais, pourquoi pas. Mais là, tu fais ça avec l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Pourquoi pas. Merci beaucoup, Sébastien.
Mais tu seras moins bien payé quand même. Il a vendu des chips, par exemple. Tu vois, et on peut pas penser que c'était extrêmement bon pour la santé. Voilà, bon, il a choisi de le faire, très bien.
D'accord. Quand tu finis tes arguments par voilà, ça ne veut pas dire que tu peux
retenir comme argument pour justifier le geste de Ronaldo. Il s'agit pas de défendre que le Coca et qu'il a raison ou qu'il a tort en fonction du fait qu'on juge.
Toi, tu veux le respect des contrats.
C'est bon ou pas bon pour la santé. Bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est le respect des contrats.
Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. On est avec Constant qui nous appelle depuis Annecy. Bonjour Constant.
Bonjour.
Toi, tu es plutôt côté Emmanuel Le Chypre. Quelle hypocrisie.
Oh, moi, ça me fait rire. Il fait bien comme il veut. C'est un truc, la bouteille de Genève sur la table, c'est tout. Vous prenez ça comme exemple.
Ah, tu crois qu'il avait juste besoin de place?
Après, mais...
Pour mettre ses dossiers.
Quoi qu'il arrive, il a été payé par eux pendant combien d'années? Et après, revirement de situation, s'il veut... Quand tu vas toucher, c'est les meilleurs marqueurs de l'euro, quand tu vas toucher sa prime de meilleur marqueur et que c'est Coca qui va lui donner, il va dire quoi? Je prends pas ma prime. Il la prendra gracieusement. Donc il faut arrêter un peu d'hypocrisie.
Ouais, toi, tu crois qu'on donne trop de sens à un geste finalement qui est anodin?
Complètement.
Ouais.
Ouais, non, moi, je suis pas sûr que ce soit un geste.
Non, il a peut-être raison.
Non, moi, je pense pas qu'il ait besoin de place pour mettre ses bras.
Je pense pas que ce soit un geste anodin, oui.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le geste a eu des conséquences.
Ouais.
C'est un fondement officiel de la compétition. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il mette des grands placards derrière lui, Coca-Cola, Heineken et compagnie, ce serait pareil que s'il mettait la bouteille sur la table. Donc,
Toi, tu trouves que c'est pareil d'avoir la marque écrite derrière et le produit?
Non, parce que honnêtement, quand les gars font leurs interviews derrière ces grands panneaux, etc., là, est-ce que tu distingues les marques qui sont derrière? Non. Bon. Beaucoup moins que, ça n'a rien à voir avec la visibilité d'une bouteille.
Quand ils vont interviewer un joueur sur le terrain, ils arrivent vite avec la pancarte, avec tous les sponsors de la compétition. Il faut arrêter de dire n'importe quoi.
J'adore ce moment.
C'est un moment génial. Oui, ça c'est vrai.
C'est exactement la même chose. C'est un sponsor officiel. Donc, le protocole veut qu'il y a un produit du sponsor de la compétition. Et ben, c'est dans le protocole. Donc, il doit se plier.
On respecte les consignes et les contrats surtout. Merci Constant d'être venu débattre avec nous dans Neumann Le Chypre. On était avec Franck qui nous appelle depuis Nogent-sur-Marne. Bonjour Franck.
Oui, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous avoir.
Salut Franck, toi t'es commercial, t'es plutôt côté Laurent Neumann.
Je suis plutôt Laurent Neumann, mais en même temps, il y a un côté Monsieur Le Chypre que... Voilà,
ouais, tu veux te fâcher avec personne toi.
Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est que Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un acte qui est vraiment spontané. Même dans son visage, dans son regard, vraiment, c'est un grand sportif. Tout le monde le connaît en tant que grand sportif, vraiment quelqu'un qui, à son âge, à 36 ans, encore compétitif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, à mon avis, qui ne boit pas de coca. Moi, j'ai fait du futsal. À l'époque où je faisais du futsal, je ne buvais pas de coca parce que j'étais lourd sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, c'est vraiment spontané. Maintenant, Pogba, je pense que peut-être qu'il a suivi Cristiano Ronaldo, mais lui-même, c'est ses convictions plutôt. C'est sa religion qui lui dit de ne pas boire d'alcool, donc lui ne boit pas d'alcool. C'est sa conviction. Mais en même temps, il y a les sponsors, c'est pour ça que je suis un peu mitigé. C'est vrai, il faut suivre les sponsors, mais c'est des humains comme tout le monde, ils ont leur propre conviction. Et par moment, voilà, peut-être que des fois, ils gardent pour eux, et à un moment donné, comme Cristiano Ronaldo. Spontanément ça sort. Voilà, c'est
non mais remarque, Franck, si tu nous as écouté il y a 10 jours de ça, on a déjà eu un débat avec Emmanuel à propos de Naomi Osaka, qui ne voulant pas respecter les règles des conférences de presse à Roland Garros, a préféré quitter le tournoi.
Et d'ailleurs,
elle vient d'annoncer qu'elle ne participerait pas non plus à Wimbledon. Bon, très bien. Mais au fond, c'est la même histoire. Toi, tu dis, ils jouent dans une compétition, ils doivent respecter toutes les règles, même les règles qui leur plaisent pas. Donc elle, elle est dépressive, elle est quand même obligée d'aller aux conférences de presse. Lui, il a pas envie de poser devant une bouteille de coca, il doit la fermer, il doit y aller quand même. Moi, je suis désolé, il y a un moment donné où les joueurs, non, ils ont le droit aussi de...
Pareil. Mais non,
c'est la règle du contrat.
Mais c'est pas la règle du contrat, d'accord. Naomi Osaka.
Parce que eux-mêmes, personnellement, n'ont pas signé de contrat avec NK ni Coca-Cola. Donc je comprends que eux-mêmes, ils ont le droit quand même de dire ce qu'ils pensent, de même faire un geste pour montrer ce qu'ils pensent. Je pense qu'ils ont le droit quand même. Ça, au moins, ils ont le droit de.
Oui, mais Franck, je pense que si tu veux, alors je connais pas les règlements par cœur, mais je pense quand même que la participation aux conférences de presse, elle est extrêmement encadrée et extrêmement régulée par l'UEFA. Donc, tu sais que quand tu vas participer à une conférence de presse, tu t'engages à respecter certaines règles.
Bah, je te dis, cette affaire-là, pardon Franck, affaire-là, c'est l'occasion de s'interroger sur les règles, justement. Je te le redis, je pense qu'il faut faire une différence entre une affiche publicitaire, un logo, une marque et un produit. Et souviens-toi, on avait aussi débattu d'une célèbre marque de vêtements qui voulait absolument que les joueurs de l'équipe de France portent un nœud papillon rose au moment de la Marseillaise. Et je t'avais dit déjà à l'époque, mais il y a un jour où une marque de jambon voudra que les joueurs arrivent sur le terrain avec une tranche de jambon, ça va être top. Là, c'est des bouteilles de coca. Mais demain, ça sera quoi ?
De l'histoire de Ribéry. L'histoire de Ribéry au Bayern de Munich, quand ils ont gagné le championnat, ils sont sponsorisés par une marque de bière. Tout le monde avait une bière à la main. Et Ribéry, il a refusé de faire la photo avec la bière à la main. Ribéry, c'est le seul de l'équipe qui n'avait pas cette marque de bière entre les mains.
Absolument.
Voilà. C'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a une différence, je pense, entre un panneau publicitaire qui est derrière toi, tu es en train de discuter, tu réponds à tes questions, panneau publicitaire, et le produit qui est vraiment en face de toi, je pense qu'il y a une très grande différence, ça c'est pas la même chose. Ça c'est vraiment leur imposer quelque chose. C'est vraiment imposer quelque chose.
Mais
merci
Franck, on se sert de l'image des joueurs de foot pour l'image de marque des marques comme Coca-Cola, très bien. Très bien, ils sont payés d'ailleurs pour ça. Mais par contre, les joueurs, c'est pas des représentants de commerce.
Et encore une fois, on lui a pas demandé de boire ou quoi que ce soit.
On est avec Vincent qui nous appelle depuis Truille, dans l'Indre-et-Loire. Bonjour Vincent.
Salut à tous les trois.
Salut. On prononce, on dit Truille ou Truille ?
Truille.
Truille, hein. Ouais, je m'en doutais un peu. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais.
Eh ben, mettez un i.
Toi, t'es vachement gentil, tu lui dis rien.
Ouais, mais non, mais mettez un i dans ces cas-là. Appelons ça comme la femelle du cochon, ça sera plus simple.
Non plus, ça va être compliqué. Sur ce que vous disiez, c'était très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, un footballeur est vraiment un homme sandwich. Ce qui me choque avec Ronaldo, c'est qu'il n'est pas lui-même sponsorisé par Coca-Cola. Je vous rappelle quand même qu'un des plus gros sponsors est quand même dans le royaume de la malbouffe, c'est KFC.
Ah bah voilà.
On aurait eu une box KFC pour les enfants. Je vous garantis qu'il ne l'aurait jamais enlevé des caméras.
Il n'aurait pas dit salade, pas KFC.
Bien sûr, la vraie problématique qu'aujourd'hui les joueurs ont, alors effectivement, Franck parlait de Pogba juste à l'instant, après c'est pour des convictions religieuses, il n'aime pas l'alcool. Ceci dit, demain peut-être que Heineken le sponsorise à hauteur de 15 millions d'euros par an, peut-être qu'il acceptera de les prendre et d'être sponsorisé par Heineken. Et en fait, on en a beaucoup. Le problème, c'est que Ronaldo aurait été sponsorisé par Coca-Cola, ça n'aurait posé absolument aucun problème, mais pour absolument personne. Alors après, pour moi, c'est rien en fait ce qui s'est passé. Prendre de l'eau, c'est très bien, c'est des joueurs de foot, on voit bien Ronaldo, comment il est bien taillé, il n'y a aucun souci. En tant que footballeur, c'est tout à fait normal, et je pense pas qu'il boive un litre de Coca-Cola par jour. Simplement, son sponsor aurait été Coca-Cola, ça aurait été complètement différent. Et je reviens simplement également sur l'essence même de l'UEFA, de la FIFA, de l'Euro, de la Coupe du Monde. Rappelez-vous, 80% des budgets viennent des sponsors. Donc quand vous appelez Coca-Cola, quand vous appelez Heineken, aujourd'hui qui sponsorisent énormément d'événements sportifs, et grâce à eux, aujourd'hui il y a des milliards de téléspectateurs, voire des centaines de millions de téléspectateurs qui suivent des événements sportifs, là on se retrouve en fait, je pense, dans des sponsors qui vont se dire, mais attendez, d'où une personne écarte ma marque. Coca-Cola, regardez le nombre de dizaines.
Ouais. Non, Vincent, je t'arrête. Ronaldo n'a pas écarté la marque, il a écarté le produit. Ce qui n'est pas pareil.
Mais la marque, c'est son produit quand même.
Quelle est la différence pour toi, Coca-Cola, aujourd'hui, quand tu bois du Coca-Cola?
Et peut-être qu'il va signer un contrat avec Pepsi.
Je veux dire,
toi, tu dis c'est possible. Non, moi, je dis attends, faut pas.
Conférence de presse, c'est pas un supermarché.
Non, mais ça, c'est...
On n'est pas dans les rayons d'un supermarché.
Ce n'est pas un supermarché, mais il est aussi payé par rapport à ça. Le sport est payé grâce à ça. Lui, tu enlèves l'Euro, tu enlèves la Coupe du Monde, tu enlèves la Ligue des Champions, sponsorisée par Heineken, Coca-Cola, FedEx et j'en passe, de très très grosses sociétés. Est-ce que tu es obligé d'avoir ce geste-là simplement pour dire « je préfère l'eau » il faut aussi respecter les sponsors qui sont derrière.
Tu es tout à fait dans la lignée d'Emmanuel. Hein.
35 millions Coca-Cola pour l'euro. Là.
On a une polémique derrière qui est reprise dans le monde entier, avec Ronaldo qui est suivi par des dizaines de millions de personnes sur Twitter, Instagram, etc. Et Coca-Cola.
Et peut-être plus, parce que du coup, pour lui et pour son image, ça a quand même très, très bien fonctionné, hein, Ronaldo. C'est des nouveaux fans pour lui. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chypre. On va continuer à débattre ensemble dans un instant. On sera avec Abdoulaye, notre agent SNCF, qui nous appelle régulièrement et qui est plutôt coté. Alors, je ne sais pas, en fait. Il est plutôt lourd, ça sera la surprise. Restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann
Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Des joueurs de foot retirent des bouteilles de bière et de soda placées devant eux lors de leur point presse. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative pour Neumann Le Chypre? Mauvaise et même scandaleuse. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Pour Laurent Neumann, bonne. Pas question, parce que toi, t'exagères pas. Peut-être bonne. Pas question de renoncer à ses idées pour de l'argent. Amen. On va au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
C'est bien parce que t'es pas du tout de parti pris sur ce
débat. On est avec Abdou. Non, mais moi je suis d'accord avec toi en plus.
Ah bon?
Ouais, mais je me cache.
J'aurais parié le contraire.
Je me cache, je fais ça discrètement. On est avec Abdoulaye qui nous appelle depuis Neuilly-sur-Marne, qui est agent SNCF. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va et toi Abdoulaye? Alors toi t'es mitigé.
En fait, c'est mitigé, voilà. C'est on était dans les deux parties en fait, on va dire.
Vas-y. Alors explique-nous.
Alors, Ronaldo retire les bouteilles, ça peut se comprendre que monsieur n'aime pas le coca.
Attends,
alors on va te rappeler Abdoulaye parce qu'on t'entend ouais. Très très mal. On te rappelle, on te reprend dans un instant. En attendant, on va prendre Pascal qui nous appelle de La Marque en Gironde. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Toi tu es ouvrier viticole, tu es plutôt Laurent Neumann.
Ah complètement, oui. Alors moi j'ai vu la réaction de Cristiano Ronaldo, je suis pas forcément un grand fan de Cristiano Ronaldo, mais par contre j'ai trouvé sa réaction géniale. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a pas débat sur ça, quoi. Boire du coca ou boire de l'eau. Mes enfants, j'essaie de les éduquer sur ça, et je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient un modèle qui leur dit que l'eau c'est très bon et le coca ça le fait pas du tout, quoi.
Est-ce que tes enfants ont vu ce petit morceau, ce petit passage?
Oui, je leur ai fait voir justement. Ouais. Ils ont réagi en disant ah oui, effectivement, papa, ce que tu nous dis depuis des années. T'as bien raison, en fait.
Si Cristiano Ronaldo est d'accord avec, ça donne du poids.
Ça donne beaucoup de poids, oui, je trouve, ce genre de choses.
Eh ben, c'est déjà pas mal. On a retrouvé Abdoulaye qui nous appelle de Neuilly-sur-Marne. Abdoulaye, tu es là?
Oui, vous m'entendez bien, c'est bon?
Un petit peu, vas-y.
Oui, excusez-moi. Alors, je disais que Ronaldo retire la bouteille, ça peut se comprendre, c'est son choix. Que Pogba, qu'il le fasse pour des raisons religieuses, ça peut se comprendre. Mais après, faut voir plus loin. En fait, faut que les organisateurs se posent des questions sur les sponsors qu'ils recrutent. C'est vrai que Coca, ça fait des années qu'ils sont sponsors de la FIFA. Mais s'ils prenaient des sponsors adéquats, je pense que ça irait un petit peu mieux et qu'ils éviteraient ce genre de polémique, en fait.
Ah, mais tu crois pas que c'est au mieux 10 ans?
Comment?
C'est pas celui qui met le plus gros chèque sur la table?
Oui, après voilà, c'est hier j'avais la discussion avec des amis. Je leur disais après, c'est clair, la FIFA ils font un appel d'offres. Le plus, il prend. Mais il faudrait qu'eux aussi revoient leurs principes, parce qu'on remet sur la table les principes des joueurs. Il faudrait que la FIFA revoie ses principes aussi. Si elle aurait pris des boissons énergisantes, quitte à perdre un peu d'argent pour le sponsoring, c'est pas grave. Au moins, elle est en adéquation avec ce qu'elle propose, en fait.
Parce que moi j'adhère hein, à ton idéal de monde. Mais alors,
donc en gros, on ne peut avoir que des sponsors qui conviennent aux sportifs. Moyen, hein. Mais attendez,
chacun pourrait faire une liste.
Comment vous voulez qu'un jeune de 14 ans comprenne que pendant 90 minutes, je regarde un sportif jouer au foot et qu'à la fin du match, je vois une bouteille d'alcool? Donc ça veut dire quoi? Qu'à la fin du match, il faut que j'aille boire, mais l'alcool, c'est plus tout.
Attends, Abdoulaye, ça y est, on t'a perdu. Non, attends, ce que tu dis, Abdoulaye, me fait penser, j'y avais pas pensé, mais du coup, attends, juste une chose, Emmanuel. Tu as vu, il y a eu une polémique il y a quelques mois. Je crois que c'est Anne Hidalgo qui a renoncé à Total comme sponsor des Jeux Olympiques de Paris en disant moi, j'ai une politique de sortie des énergies fossiles, pro-environnement, aussi, etc. Hein. Voilà, je sais bien. Mais du coup, elle a considéré qu'il fallait supprimer Total. Donc, c'était une façon de mettre en adéquation l'image qu'elle veut donner de Paris. Il fallait pas que ce soit en contradiction avec les sponsors qui venaient soutenir les JO à Paris. Et d'ailleurs, ça a fait débat, parce que t'as raison, Total doit, j'imagine, dans sa stratégie, faire des efforts, etc. Bon, mais c'est une vraie question qu'il pose, Abdoulaye. Est-ce que une entreprise comme la FIFA,
ça veut dire qu'on ne peut choisir comme sponsor des marques,
on peut se poser la question,
respectables par les sportifs, que des trucs bons pour la santé, que des trucs qui sont. Alors donc on va passer tout ça à une espèce de grille de vertu, hein, voilà, en fonction, il y aura un Publiscore, alors voilà, qui dépendra, ça sera comme le Nutriscore.
Où chacun aura une liste.
Tu pourras être sponsor si t'es, etc. Mais la réalité, c'est que les plus gros sponsors, c'est pas ça. Et que, de toute façon, si on fait ça, eh ben, la réalité, c'est qu'il y aura plus de gros sponsors parmi les marques de grande consommation, qu'il y aura beaucoup moins d'argent, dans le sport, et que tout ça se retournera, au final, contre le sport. Bien sûr. Bon, bah, voilà.
C'est un cercle vertueux.
Mais non, le cercle vert que quoi, de l'hypocrisie, de Ronaldo qui fait la fine bouche devant deux bouteilles de Coca mais qui va t'encourager à te goinfrer de KFC, Pogba qui fait de la pub par ailleurs pour Pepsi, mais ces types-là ils sont d'une inconstance totale. Mais je veux dire que vous considériez ces types-là comme des types vertueux parce que ils ont donné une leçon, etc. Avec leurs deux bouteilles, machin et tout, mais c'est non, mais franchement c'est incroyable. Incroyable. Ouais, tu vois, un type comme Federer, il a des marques, il honore des contrats. C'est peut-être le sportif le plus sponsorisé du monde. Mais en attendant, au moins, bah, quand tu l'as comme client, t'es sûr de pas avoir de mauvaises surprises.
Il a peut-être moins d'impact, hein. Enfin, beaucoup de gens connaissent Federer, mais
excuse-moi, Federer, il est beaucoup plus connu dans le monde que Paul Pogba. Cristiano Ronaldo.
Arrête.
Mais je veux dire qu'il est beaucoup plus connu que Paul Pogba.
Le tennis, c'est pas quand même le sport populaire par excellence.
Mais tu plaisantes, Roger Federer, il est connu dans le monde entier.
Mais par rapport à Cristiano Ronaldo,
il y a peut-être Cristiano Ronaldo, mais c'est tout. Mais voilà.
Tu sais quoi, j'aime pas quand vous disputez tous les deux.
Mais parfois, c'est ça la vie, Laurent. Parfois, c'est aussi des conflits.
Mais oui, je sais pas. Alors que au fond, vous êtes pas loin d'être sur la même ligne.
Pas du tout. J'aime bien cette phrase qui veut rien dire. Au fond, vous êtes pas loin d'être sur la même ligne.
Au fond, c'est faux.
Mais non, pas du tout.
Un grand merci à Abdoulaye et Pascal d'avoir été avec nous au 32-16 pour être venu discuter du comportement.
Chacun choisit ses leaders d'opinion.
Footballeur, oui, merci. Lisa Marie, quel est le résultat définitif?
Désolé, Emmanuel, l'homme sandwich, vous donnez raison à Laurent Neumann. Vous êtes 67% trouver que les footballeurs ont eu raison de retirer la bouteille de bière, la bouteille de coca.
Achetez-vous des bonnes consciences pour pas cher.
On peut laisser Lisa Marie donner les scores sans nous.
Non, je suis pas d'accord.
L'homme sandwich,
comme ça. Parler. Il est disponible en tout cas pour faire l'homme sandwich. Il vous attend au 32-16. On va parler des notaires et des questions que vous leur posez.
RMC, Neumann Le Chypre.
Vous avez une question, les notaires vous répondent.
Vous avez une question et tous les vendredis après-midi, les notaires vous répondent. Vous envoyez toutes vos questions sur Direct Studio et nous, on les envoie aux notaires. Aujourd'hui, c'est Antoine Vertou qui est avec nous. Antoine Dejoie qui est avec nous, qui est notaire à Vertou. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, votre mission, c'est de répondre à la question de Frédéric. Frédéric, il a 62 ans, il vit depuis 4 ans dans le sud de l'Espagne. Jusqu'ici, il rentrait en France, il avait toujours une maison qu'il louait. Désormais, il souhaite la vendre. Est-ce qu'il peut réaliser cette vente entièrement à distance, car il veut limiter ses déplacements?
En effet, c'est une très bonne question. Toujours proche de notre quotidien, les questions qui viennent des auditeurs de RMC. Oui, Frédéric, il peut faire cette opération entièrement à distance. Alors, on va être très concret. Il fera d'abord, comme tout vendeur, il doit préparer son dossier, peut-être évidemment avec plus d'anticipation que tout un chacun, car il est loin. Son type de propriété, les diagnostics qui sont devenus obligatoires, sans doute un bail puisqu'il loue la maison, et sûrement d'autres choses. Il anticipera également en prévenant son notaire, lui demandera de l'aider à préparer le dossier, compléter les documents si nécessaire. Bien.
Mettre son notaire où? Son notaire en France ou en Espagne?
En France. D'accord. En France. Il devra aussi trouver l'acquéreur. Alors pour cela, soit il fera appel à un intermédiaire, un professionnel, une agence, un notaire, bref. Ou alors il cherchera par lui-même, voulant éviter un intermédiaire, s'il le souhaite. Il faudra quand même qu'il trouve quelqu'un qui fera faire les visites. Même si par Internet, il peut mettre les annonces, lancer tout cela, il faudra bien quelqu'un qui concrètement sera sur place. Bien, une fois qu'il aura son acquéreur, alors là, il a son dossier prêt, il a l'acquéreur qui est d'accord sur le prix, il est vraiment au pied du mur, là, le notaire entrera en action et toujours à distance, Frédéric pourra régulariser les actes, signer une ou des procurations pour le compromis de vente, pour la promesse de vente, ou alors plus tard pour l'acte de vente. Tout ça, c'est possible à distance et ça s'est notamment amélioré depuis quelques mois.
Ouais, bah, c'est ce que j'allais vous dire, Maître Dejoie, puisque à la faveur, si j'ose dire, de la pandémie de Covid, il y a énormément de transactions immobilières qui se sont faites à distance, sans que l'on rencontre, d'ailleurs, parfois même le vendeur et l'acheteur se rencontrent, sans qu'on voit les notaires, tout à distance.
Tout à fait, avec des procurations à l'ancienne, des procurations, je dirais, papier, des procurations électroniques dans le format sous-sein privé, puis bien sûr, la nouvelle technique de comparution à distance plus récente, peut-être pas encore connue de tous les auditeurs, et puis tout le monde n'en a pas besoin, hein, tout le monde n'est pas si loin que ça, mais voilà, cette possibilité de faire un acte à valeur authentique, comme un acte notarié classique.
Et on peut même signer à distance, hein.
Et voilà, signer à distance, le notaire peut recevoir la signature de son client, ça c'est vraiment nouveau, ça a un peu plus d'un an, alors même qu'il se trouve pas dans la même pièce, pas dans le même endroit que le client.
Donc Frédéric peut rester bien tranquillement dans le sud de l'Espagne, il n'a pas besoin de venir faire toutes ses démarches en France. Merci beaucoup Maître Antoine Dejoie d'avoir été avec nous. Vous envoyez vos questions au notaire depuis Direct Studio et on leur envoie pour qu'ils vous répondent tous les vendredis après-midi. C'est la fin de Neumann le Chypre pour aujourd'hui. Pour la semaine, on se retrouve lundi midi, 14h. On souhaite un excellent week-end sur RMC, sur RMC Story. On vous dit à lundi, salut.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre.